Rescapé Rétro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Bien, les AVC, les cas d'accident vasculaire cérébral ou AVC sont de plus en plus fréquents dans notre pays. Et d'après les spécialistes, il y a des signes d'alerte qu'il faut considérer pour une prise en charge rapide, pour une prise en charge médicale rapide. Alors, quels sont les signes d'alarme d'un AVC? Nous recevons aujourd'hui Dr. Georges Ngoy, spécialiste en cardiologie et en médecine interne. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Docteur, la première question, c'est quoi d'abord un AVC?
L'AVC, en sigle, veut dire accident vasculaire cérébral. Il s'agit, d'après l'OMS, d'un déficit neurologique d'origine vasculaire. C'est important de connaître la définition parce que toute la symptomatologie se trouve dans cette définition. Les symptômes sont évidents. Il s'agit donc d'un déficit neurologique, en termes clairs, une paralysie qui peut concerner la face. Vous voyez quelqu'un qui a une déviation de la bouche d'un côté. Elle peut intéresser tous les mi-corps. La moitié d'un corps peut être concerné par cette paralysie, une impotence fonctionnelle, une incapacité à utiliser son bras ou sa jambe.
On sent une certaine lourdeur depuis quelques jours.
Également, ça peut se traduire également par une lourdeur.
Mais on peut de la jambe.
Au niveau de la jambe, donc la personne ne pourra plus utiliser sa jambe, ne sera plus marcher, fera ce qu'on appelle une claudication. Donc, il peut également s'agir d'un déficit du langage. Également, quelqu'un qui perd l'usage de la parole, soit parce qu'elle ne vous comprend plus, soit parce qu'elle vous comprend mais qu'elle n'arrive plus à parler, à s'exprimer. Donc les signes sont assez nombreux et variés, mais il faut retenir donc qu'il s'agit d'un déficit neurologique qui peut se manifester de différentes façons.
Voilà, ce sont là les signes avant-coureurs.
Les signes avant-coureurs. Mais au-delà de ces signes avant-coureurs qui montrent que la situation est déjà dépassée, il faut connaître ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est peut-être ça qui est important pour la population. Quelles sont les circonstances qui peuvent conduire un individu à présenter un AVC? Ce sont ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire qui, classiquement, peuvent être répartis en deux grands groupes, ceux qui sont modifiables, c'est-à-dire ceux sur lesquels le médecin, l'individu peut agir, et ceux qui sont non modifiables, ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Donc dans les facteurs de risque modifiables, ceux qui nous intéressent, ceux sur lesquels nous pouvons avoir une prise, il y a notamment l'obésité, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète sucré, il y a la dyslipidémie.
C'est quoi la dyslipidémie, docteur?
Excusez-moi pour ces termes qui sont un peu techniques et savants. Donc, c'est un trouble en fait du métabolisme des lipides. Donc un excès, on va dire de manière simple, de graisse, de cholestérol dans le sang. Donc toutes ces situations, il y a la sédentarité également. La sédentarité, il y a le tabac. Toutes ces situations-là sont des facteurs de risque qui vont préparer le lit à l'AVC et qui vont faire qu'un jour, à un moment donné, les mécanismes de compensation de l'organisme soient dépassés, qu'une personne présente un AVC. Et c'est sur ces facteurs de risque-là qu'il faut agir. Mieux vaut prévenir que guérir.
Alors, quels sont maintenant les facteurs non modifiables sur lesquels on ne peut pas agir?
Il s'agit du sexe, notamment. Les hommes sont plus exposés à présenter des accidents vasculaires cérébraux que les femmes. Il s'agit de l'âge. À partir de 45 ans chez l'homme, à partir de 55 ans chez la femme. Parce que après la ménopause, les femmes sont plus exposées aux maladies cardiovasculaires parce qu'elles ont moins d'hormones d'œstrogène qui les préservaient au départ. Donc ça, ce sont les facteurs sur lesquels nous n'avons pas d'emprise. Il s'agit de la race. Les noirs sont plus susceptibles, la race noire est plus susceptible de faire des maladies cardiovasculaires que la race blanche et de manière plus sévère. Et sur cela, nous n'avons bien sûr aucune prise. Mais nous pouvons agir sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire.
Mais certains disent qu'il y a aussi les soucis de la vie, le stress, des problèmes d'argent, ou à gauche, à droite, là, quand on n'arrive pas à subvenir à ce besoin, on est stressé à tout moment, ça peut aussi conduire à un AVC, docteur.
Tout à fait, je dis. Effectivement, le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Effectivement, et c'est un facteur important. Mais bien sûr.
Modifiable ou non modifiable?
On peut modifier le stress, on peut modifier sa réponse vis-à-vis du stress. On ne peut pas enlever le stress, on ne peut pas vivre dans une société sans stress, sans agression. Mais il faut pouvoir le gérer.
Faut pouvoir les gérer. Alors, une personne, déjà, au niveau de la famille, quand on remarque, la personne vous dit que je sens une certaine paralysie, comment se comporter à ce moment-là?
Question très importante. Quand quelqu'un vous dit qu'il présente une certaine paralysie, une certaine lourdeur, le premier réflexe, c'est d'amener cette personne à l'hôpital où un diagnostic sera posé. Donc la première chose à faire, c'est de prendre votre membre de famille et de l'amener à l'hôpital. Les anglophones disent « time is brain ». Ça veut dire que le cerveau, c'est en fait, comment dire, c'est notre objectif principal. Plus le temps passe, plus il y a des dégâts irréversibles au niveau du cerveau. Donc il est important d'amener cette personne en temps et en heure au niveau de l'hôpital où le diagnostic sera posé correctement et l'attitude appropriée sera mise en marche. Il est très important, il y a ce qu'on appelle, dans la prise en charge de l'AVC, ce qu'on appelle les golden hours. C'est-à-dire qu'il y a du temps sur lequel, durant lequel il faut agir, au-delà duquel les dégâts seront irréversibles et on ne pourra plus récupérer.
Et quel est ce temps, depuis l'apparition des signes, jusqu'à la manifestation de la maladie, ça peut prendre combien de temps?
Alors, les golden hours, les heures en or, c'est en fait 4 heures. Certains auteurs vont au-delà, vont penser à 6 heures, mais dans les 4 heures, si on peut agir, si on peut amener la personne à l'hôpital et qu'un geste peut être posé, c'est déjà quelque chose de très important.
Dans les 4 heures.
Dans les 4 heures, amener déjà la personne à l'hôpital, c'est très important. Les signes peuvent, ça dépend en fait de la localisation de l'atteinte cérébrale. Les signes peuvent être transitoires, on parle d'accidents ischémiques transitoires, ils peuvent durer quelques heures à un jour, tout comme ils peuvent persister toute la vie.
Parce que quelqu'un peut se dire, toute paralysie n'est pas un signe d'un AVC, on peut sentir une lourdeur à la jambe ou au bras, et puis on néglige un peu, on prend quelques calmants, les gens font de plus en plus l'automédication, et puis bon, on laisse voir comment ça va évoluer avant d'aller à l'hôpital.
Tout à fait, toute paralysie n'est pas égale à AVC. Voilà pourquoi il est important d'amener la personne à l'hôpital où un diagnostic sera posé et l'attitude correcte sera mise en marche.
Bien, des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-893-94. Quels sont les signes annonciateurs d'un AVC? Docteur Georges Ngoy, spécialiste en cardiologie et en médecine interne, est l'invité d'Okapi Service.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiookapi.net.
Quels sont les signes annonciateurs de l'AVC? Gentil Oumanou, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre question, Gentil?
Alors, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Je m'avais vite demandé à notre invité, comme j'ai deux petites préoccupations. La première, quelles sont les précautions à prendre pour éviter ces maladies d'AVC? Alors, la seconde question, je voulais aussi demander à notre invité. Nous avons les signes cliniques, on fait les examens cliniques et on fait aussi les examens paracliniques. Je voulais vous demander qu'il puisse me donner quels sont les examens paracliniques qu'on peut faire au laboratoire pour détecter l'AVC. Merci, c'est gentil de m'en attendre à une nouvelle vision.
Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Ismaël.
Ok. Comment faire la différence entre la
l'AVC, c'est-à-dire l'accident vasculaire et l'hypertension artérielle. Au mode d'utilisation de substances à manger, quelles peuvent être les conditions nécessaires telles que, comme l'invité a pu évoquer le problème de cholestérol, quelle peut être, par exemple, l'huile de cuisine, quelle peut être l'huile de cuisine préférée pour lui qu'on puisse utiliser en vue d'éviter aussi ce fléau. Et à part ça, juste pendant l'asphyxie ou la thrombose ou thrombophlébite, quel peut être le mécanisme nécessaire pour lui qu'on puisse aussi avoir dissipé en vue d'éviter cet accident. Merci, merci à l'invité.
Bien, Étienne Katoumanga, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Ok, j'aimerais insister sur un point où l'invité semble un peu échapper à un certain niveau. J'ai un témoignage ensuite, je vais poser la question à notre invité. Je connais un passeur de la place. Donc, ce passeur-là a senti un mot de tête violent. Il est allé acheter les produits pharmaceutiques au marché. Juste après avoir dit, il s'est senti l'hypothèse paralysé. On l'a amené au Jukai. Donc, quand on fait l'examen, on a trouvé qu'elle a connu, qu'il a connu un problème de l'AVC. Alors, on a traité par le docteur, le pasteur s'est ressuscité. Comme condition des docteurs de Jukai, ils ont demandé au pasteur de ne pas prêcher pendant 6 mois. Donc, de ne pas être en contact avec le problème qui peut lui énerver pendant 6 mois. Même si un membre de sa famille est mort, qu'on ne lui informe pas. Même si on a volé quelque chose de sa part, qu'on ne lui informe quoi. Ne lui informe pas. Qu'il soit mis à l'aise pendant 6 mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le passé est venu, comme on a toujours dit que c'est Dieu qui guérit, mais pas le docteur, juste après 2 mois, il a commencé à prêcher. Donc, il est tombé un peu malade. Quand il est retourné là-bas, je crois que les docteurs ont dit que non, cette maladie, on peut la guérir une seule fois. Concernant la seconde fois, il n'y a pas moyen. On l'a amené dans une autre église, là où il a cassé tout. Bon, j'aimerais peut-être demander à notre invité. Ces docteurs-là ont dit que l'AVC, souvent, elle est remarquée chez les jeunes âgés de 35 ans jusqu'au-delà, parce que les jeunes sont soumis à des raisonnements élargis. Il fait la force de moto, de voiture. Donc, des raisonnements négatifs à chaque instant, ça peut pousser la personne d'avoir là. C'est quel que le temps du passé que je viens de vous donner. Parce que c'est quelqu'un qui veut toujours être au top de tout le passé, mais il n'avait pas les moyens. Est-ce que l'invité peut confirmer cet avis?
Bien, merci. Merci à tous les auditeurs pour ces questions. Nous commençons par Gentil Oumanou de Kananga, qui nous parle des précautions à prendre pour éviter un AVC. Et puis, quels sont les signes cliniques et les signes paracliniques, docteur Georges?
Tout à fait. Les précautions à prendre sont donc agir sur les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. On a cité donc la dyslipidémie, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'usage du tabac. Donc, ce qui est important, c'est qu'à partir d'un certain âge, chez tout homme à 45 ans et chez la femme à 55 ans, il faut faire un dépistage de ces maladies. Parce que bien souvent, ce sont des maladies qui évoluent à bas bruit et qui ne se manifestent que lorsqu'il y a déjà des complications. Donc, il est important de prendre soin de son corps et de faire ce qu'on appelle un check-up annuel. C'est le cas dans certains pays où chaque année, la population est invitée à aller se faire contrôler. Contrôler sa pression artérielle, contrôler son taux de sucre, son taux de lipides. Donc c'est une attitude importante à avoir et à intégrer. Mmh. Mais on peut également agir en adoptant des attitudes saines de vie, c'est-à-dire en mangeant des fruits et des légumes tous les jours, en proscrivant l'usage du tabac, en consommant de manière modérée de l'alcool, en évitant tout ce qui est excès. C'est une manière également de se protéger. Et encore plus important, c'est en faisant de l'exercice physique, parce que les AVC peuvent être également aussi la conséquence d'une vie de sédentarité. Donc pratiquer un sport, la marche, la course, la natation pendant 45 minutes, 1 heure, c'est une manière de se tenir en forme et de se préserver des maladies cardiovasculaires.
Mmh. Et les signes cliniques et paracliniques, oui. Est-ce qu'au niveau du laboratoire aussi on peut détecter l'arrivée d'un AVC?
Tout à fait, à part les signes cliniques que nous avons évoqués tout à l'heure, les examens paracliniques ont une place importante. L'examen le plus important, c'est l'examen qui nous permettra de dire s'il y a AVC ou pas.
Au laboratoire?
Au-delà du laboratoire, ce sont les examens d'imagerie. c'est le scanner cérébral, c'est l'IRM cérébral qui nous montrera qu'il y a effectivement une atteinte au niveau du cerveau, soit ce qu'on appelle une ischémie, c'est-à-dire une obstruction du flux sanguin, ou alors une hémorragie, parce qu'il y a deux types d'AVC, l'AVC hémorragique et l'AVC ischémique. Donc le gold standard, l'examen de choix, c'est l'imagerie, c'est la tomodensitométrie, le scanner ou l'IRM. Mais au-delà du scanner et de l'IRM, il faut faire un bilan des facteurs de risque cardiovasculaire associés, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas d'autres maladies qui favorisent donc cet AVC. Il faut faire d'autres examens, contrôler la fonction rénale, contrôler le taux de lipides, contrôler le taux de sucre, faire la glycémie. Tous ces examens-là nous permettent d'avoir une vision générale sur le patient et d'agir sur toutes les comorbidités associées.
Bien, Ismaël Moupo nous parle de la, nous pose la question de savoir quelle est la différence entre l'AVC et l'hypertension.
Oui. La première pourvoyeuse, la première maladie pourvoyeuse d'AVC, c'est l'hypertension artérielle. C'est l'une des premières causes de l'AVC dans le monde, en Afrique et en République démocratique du Congo, d'après de nombreuses études. L'AVC, dans sa définition, c'est un déficit neurologique. En termes clairs, c'est une paralysie. L'hypertension artérielle, c'est une élévation de la pression artérielle au-delà de ce que les spécialistes ont déterminé comme limite normale, donc supérieure à 140 mm de mercure pour la systole, à 90 mm de mercure pour la diastole. Donc ce sont deux entités différentes mais intimement liées. Si je peux parler de manière plus simple, l'hypertension artérielle, c'est juste une élévation des chiffres tensionnels, sans nécessairement qu'il y ait des signes visible cliniquement, alors que l'AVC, c'est une paralysie dont l'origine est vasculaire.
Donc les signes avant-coureurs, c'est d'abord la paralysie et il faut rapidement aller à l'hôpital. Donc rapidement. Vous avez dit, dans les 4 heures qui suivent, il faut se présenter au niveau de l'hôpital.
Rapidement aller à l'hôpital, time is money, le cerveau c'est du temps. Plus le temps passe, moins nous avons de chances d'avoir du succès. Donc il est très important d'aller vite à l'hôpital.
Dans Et si on va vite à l'hôpital, il y a moyen d'arrêter la manifestation de la maladie?
Il y a moyen d'agir pour éviter l'extension, parce que c'est un phénomène en fait qui est évolutif. Il y a moyen d'éviter l'extension de la maladie, il y a moyen donc de limiter les dégâts. Dans certaines structures médicales, il y a moyen d'agir en levant l'obstacle qui empêche la perfusion correcte du cerveau. Donc, il est très important d'agir. L'un des signes également sur lesquels nous ne sommes pas revenus, mais qui a été cité par l'un de nos auditeurs, c'est les maux de tête. Vous voyez que les maux de tête, c'est un symptôme qui est vraiment bâtard et qu'on le retrouve dans beaucoup de pathologies. Mais il peut être le signe annonciateur. Des maux de tête violents peuvent être le signe annonciateur également d'un AVC. Il faut faire attention.
Mais certains seront tentés de prendre des aspirines rapidement ou des paracétamol,
Oui.
Et c'est fini.
Le paracétamol serait une attitude qui est la plus sage. L'aspirine serait un peu plus risquée. Mais à tout seigneur, tout honneur, lorsque vous êtes malade, il est important de venir à l'hôpital. Si vous pouvez soigner de manière symptomatique dans les premières heures, mais très rapidement aller à l'hôpital, voir les spécialistes et vous en serez certainement béni.
Et Étienne nous parle de ce pasteur qui a eu des maux de tête violents et on lui a interdit et on lui a dit de ne pas prêcher pendant 6 mois, mais il n'a pas respecté cela et après il avait une rechute.
Tout à fait.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire, le fait de prêcher, c'est ça qui l'a conduit à faire un AVC?
Vous avez évoqué tout à l'heure le stress qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Mais malheureusement, nous sommes dans un environnement où nous sommes entourés de stress. Donc il était difficile peut-être de demander à ce pasteur de ne pas exercer son activité que Dieu lui a donné. Mais il faut savoir que le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Il est important qu'au-delà du stress, on puisse voir les autres facteurs de risque, voir si le pasteur n'était pas hypertendu, s'il n'était pas diabétique, parce que le stress passe par l'hypertension artérielle en réalité. Il s'agit d'une stimulation du système sympathique qui va élever la fréquence cardiaque, qui va élever la pression artérielle et qui va conduire à l'AVC.
Docteur, est-ce qu'une fatigue intense peut être aussi les signes d'un AVC?
Tout à fait. Une fatigue intense, inexpliquée, peut être un signe avant-coureur. Donc, on le répète, voyez vos médecins.
Voilà, il faut rapidement aller voir le médecin. Et Aimé Minaku nous appelle des Dungu et Jean des Dieux Kafuka, des Kikwit.
Votre radio vous propose propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Quels sont les signes avant-coureurs, les signes annonciateurs d'un AVC? Aimé Minaku, vous êtes à Dungu, Jean des Dieux Kafuka qui quitte. Aimé, bonjour.
Allô, bonjour, aujourd'hui j'ai failli l'inviter.
Bien, on vous écoute.
Oui, j'ai des questions par rapport à ce sujet. La première, j'aimerais que savoir une chose auprès de l'invité. Il y a des fois où quelqu'un peut se blesser ensuite et vous voyez les cicatrices commencent à se développer. Alors j'aimerais savoir est-ce que ce phénomène peut être l'un des éléments qui caractérise un AVC.
Pardon, après, vous dites la personne se blesse et qu'est-ce qui arrive?
Oui, les cicatrices commencent à se développer.
Se développer comment?
Oui, se développer, bon, ça fait comme une boule, ça se développe, bon, continue, je dis.
Oui.
Oui. Et la deuxième question, l'invité a quelque part parlé des stress comme l'aide aussi des éléments qui caractérisent un AVC. Alors, j'aimerais savoir comment peut-on surmonter cette agression psychique.
D'accord, merci Aimé. Jean des Dieux Kafuka de Kikwit, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à notre auditeur, à tous ceux qui sont présentement branchés à la
Gétanie. On vous écoute.
Oui, j'ai trois préoccupations que je vais demander à l'invité. Ma première préoccupation, je demande à quelqu'un qui a été à l'hôpital, qui souffrait toujours de l'accident vasculaire cérébral. Il a été soigné, il s'est rétabli. Maintenant, il est à la maison. Quelles sont les mesures préventives que notre invité pouvait donner à ces cas-là pour que le malade ne pouvait pas revenir à cet état-là, bien qu'il ait déjà hypertendu connu. Ma deuxième préoccupation, je demande aussi par rapport à ce même sujet de l'accident vasculaire cérébral chez quelqu'un qui souffre de diabète. Et vous voyez, le diabète marche de pair avec la tension artérielle. Quand il y a hyperglycémie, il y a aussi hypertension artérielle qui est vraiment soudée au diabète. Maintenant, ce malade qui souffre de diabète, qui est toujours à la maison, il prend le médicament sans que la tension ne soit pas élevée. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'invité pouvait conseiller ce type de malade comme ça? Ma troisième préoccupation pour dire, c'est que je voudrais aussi demander à notre invité, nous avons combien de sortes
de
accidents cérébraux, parce qu'il est, c'est tout ce qui touche le cœur. Merci beaucoup.
Jean de Dieu, aujourd'hui, on parle beaucoup plus des signes annonciateurs, des signes qui pour connaître qu'il y a un AVC en train de venir. Bon, néanmoins, docteur, notre invité va quand même répondre. Vous avez la parole.
Alors, la première auditrice a posé la question sur des
une cicatrices. Une personne qui se blesse et la cicatrice commence à gonfler et à se développer.
Effectivement, on parle de cicatrices hypertrophiques ou de ce qu'on appelle des kéloïdes. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour.
Est-ce que c'est un signe d'un AVC? C'est ce qu'elle veut savoir.
Non, certainement pas.
Ça n'a rien à voir avec
l'AVC. Avec l'AVC. Elle doit voir son dermatologue pour cela. La race noire est exposée effectivement à des cicatrices exagérées qu'on appelle les kéloïdes. Et c'est pris en charge très bien en chirurgie générale ou bien chez le dermatologue.
Le stress.
Oui, on revient encore sur le stress. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans un environnement de stress. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller habiter sur la Lune? Certainement pas. Il faut faire avec. Il faut que l'individu sache qu'il doit s'intégrer correctement par rapport à son milieu, dans le milieu dans lequel il évolue. Il doit être en équilibre avec lui-même. Il doit être en équilibre avec la société.
Est-ce qu'on on peut dire que toute personne qui est stressée est susceptible de développer un AVC?
Toute personne qui est stressée peut être susceptible de développer un AVC. Le stress est inhérent à notre vie. Il commence dès que nous arrivons ici sur Terre, dès que nous naissons. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui ont un stress qui présentent un AVC. les personnes qui ont un stress et qui présenteront un AVC sont celles qui ont certaines prédispositions à développer, des prédispositions familiales à développer notamment l'hypertension artérielle. Mais il est important d'être intégré correctement par rapport à son stress, de le gérer. En cela, la famille peut nous aider, l'église peut nous aider, et également les psychothérapeutes peuvent nous aider si nous n'avons pas une réponse adaptée vis-à-vis du stress, si nous ne savons pas gérer correctement notre stress, nous n'avons plus de mécanisme de défense. Mmh. Il faut trouver les moyens autour de soi, en famille, à l'église, ou avec un psychothérapeute qui va nous donner les armes nécessaires pour relativiser en fait les circonstances qui nous agressent dans la vie.
Voilà. Jean des Dieux parle des mesures préventives. Une personne qui a déjà développé la maladie, on l'a traitée, elle est rentrée à la maison. Comment, qu'est-ce faire pour éviter la réapparition ou la rechute?
Pour éviter la rechute, il faut agir sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Cette personne était-elle hypertendue? Dans ce cas, il faudra normaliser sa pression artérielle dans des intervalles bien précis. Cette personne était-elle diabétique? Dans ce cas-là, il faudra normaliser également le taux de sucre dans son sang, sa glycémie. Mmh. Voilà pourquoi il est important d'avoir un suivi régulier. Une fois que quelqu'un a fait un AVC, il est à la maison, il doit venir en contrôle chez son médecin. Ensemble, lui et le médecin, ils vont établir une feuille de route avec des objectifs bien précis sur la pression artérielle, sur le taux de sucre, sur le taux de lipides. Et donc, c'est un suivi au quotidien de ce patient. Il ne faut pas l'abandonner dans la nature après qu'il ait fait un AVC. Non, il doit revenir en consultation pour être suivi. Il faut également aider ce patient à retrouver une certaine autonomie. Et c'est là où intervient la kinésithérapie. Donc, il est important à ces personnes-là qui ont gardé un déficit, même du langage. Il faut trouver des spécialistes qui pourront vous aider à retrouver une certaine autonomie. Parfois, cela est possible, mais parfois, lorsque les dégâts sont trop importants, il est difficile de revenir en arrière. Parce que, comme vous le savez, les cellules du cerveau ne se renouvellent pas. Une fois qu'elles sont nécrosées, une fois qu'elles sont mortes, c'est fini.
Mais généralement, les patients que vous recevez, docteur, est-ce qu'ils viennent à temps, on les amène à temps, ou c'est quand déjà la maladie a frappé?
Généralement, ils ne viennent pas à temps. Parce que dans notre culture, lorsqu'on est malade, d'abord on s'automédique, ou alors on va d'abord voir le pasteur, ou alors on pense que quand on est malade, ça va passer, c'est d'origine spirituelle. Et dans la mentalité de l'Africain, les maladies chroniques n'existent pas. Bon nombre de patients qui nous arrivent en consultation nous disent « Oui, j'étais hypertendu il y a 2 ou 3 ans, mais maintenant je ne le suis plus. Les chiffres étaient revenus à la normale. » Donc il y a ce problème-là encore où il faut conscientiser les populations à se prendre en charge correctement. Lorsqu'on vous déclare hypertendu, dans la majorité des cas, c'est pour la vie. Lorsque vous êtes diabétique, c'est pour la vie. Et il faut un suivi régulier, un contact régulier avec les praticiens hospitaliers.
Et quand on vient avec à une personne qui est déjà paralysée, donc ça complique la situation.
Lorsque l'accident ischémique est constitué, tout ce que nous pouvons faire, c'est éviter l'extension en fait des lésions. Ce qu'on peut faire, c'est traiter en fait toutes les facteurs qui peuvent aggraver la situation. C'est notamment l'hyperglycémie, c'est la fièvre. Il faut agir donc sur ces facteurs-là qui peuvent entraîner un mauvais pronostic de l'AVC, parce que le pronostic fatal également est possible. Quelqu'un peut faire un AVC, et c'est très souvent le cas, et décéder. Donc il est très important d'agir sur tous ces facteurs-là, comorbidité associée. Très vite, apprendre aux patients à regagner une certaine autonomie, à retrouver l'usage des membres qui étaient paralysés, si cela est possible.
Justin Lengoy nous appelle de Lumbashi. Bonjour, Justin.
Bonjour, bonjour à notre invité, à tous les auditeurs de la Radio Capine.
Quelle est votre question, Justin?
Oui, monsieur, je voulais un peu demander à notre invité, monsieur le docteur, je suis aussi victime des symptômes qu'il vient de citer. J'ai une fatigue longue après avoir peut-être travaillé ou pas pendant la journée, mais je me sens tellement fatigué la nuit. Et ça, c'est un bébé. J'ai joué au foot auparavant, mais il y a un certain moment que, en jouant, tu te reposes, tu sens que non, tu n'es pas dans ta peau. Je ne parviens pas à comprendre. Est-ce que c'est l'attaque d'un AVC ou c'est une autre maladie Parce que je suis allé à l'hôpital, mettre un fois, on fait des examens, on ne trouve pas. Il y a une autre partie du corps qui reste étendue comme ça, ça ne bouge pas, je peux rester 15 minutes ou 10 minutes pour être en état normal. Je ne parviens pas à comprendre ça, parce que je suis allé plusieurs fois à l'hôpital.
Quelle est la partie du corps qui bouge pas parfois?
Oui, du côté, la jambe droite, d'autre part là je peux faire, si j'ai fait une longue distance à pied, il m'arrive de m'arrêter directement, être un peu, c'est comme si le corps tout à fait n'est pas en forme. J'arrête là même 5 minutes ou 15 minutes pour reprendre encore la marche. Et la fatigue aussi, il est tellement, chaque fois, chaque soir, je suis tellement fatigué, même si je n'ai rien fait. Fatigué.
Alors, vous êtes tellement fatigué. Et vous avez quel âge, monsieur Justin?
J'ai 21 ans.
21 ans. D'accord. Docteur, restez en ligne. Docteur Georges va répondre tout de suite.
D'accord. L'âge est très important. À 21 ans, on ne fait généralement pas d'AVC. Mais bien sûr, en médecine, on dit ni jamais ni toujours. Il y a certaines maladies, notamment très connues dans notre pays, telles que la drépanocytose, qui peut entraîner des AVC chez les sujets jeunes. Donc, mais généralement à 21 ans, il faut d'abord avoir son œil axé sur un autre problème. La fatigue est un syndrome qui se retrouve dans beaucoup de maladies. Donc voilà pourquoi il est très important de faire un diagnostic différentiel et d'aller à l'hôpital. Je conseillerais donc à notre auditeur de voir son médecin et d'aller le plus tôt possible voir son médecin. Mais juste pour...
Mais il dit qu'il était... Justin est encore là en ligne, Tati? Justin?
Oui.
Voilà, alors vous avez suivi, docteur, vous demande d'aller voir votre médecin. Est-ce que vous l'avez déjà fait?
Oui, j'ai un médecin qui répond souvent. Je suis allé plus de 3 fois. On fait des examens. On ne trouve pas une maladie qu'on peut me le dire. Bon, ça, c'est précisément des produits que je peux prendre. Mais depuis que j'ai commencé à prendre des produits, il y a de cela qui fait 3 ans. Il y a toujours des mêmes réactions.
Oui, docteur.
Alors oui, Justin, mais est-ce que vous avez fait un scanner? Un scanner cérébral.
Allô?
Oui, allô, Justin. Justin, est-ce que vous avez fait un scanner à l'hôpital?
Ah, pas encore le scanner.
Voilà, parce que c'est très important dans la mise en évidence d'un AVC, c'est l'examen de choix, c'est faire un scanner. Donc, je vous conseillerais de voir très vite un spécialiste qui vous orientera correctement à ce sujet. Mais vu votre âge, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour vous confirmer ici à la radio que c'est un AVC ou pas. Il faut aller voir le médecin, il doit vous réexaminer, il doit vous demander les examens appropriés.
Bien, merci d'avoir... Oui, oui, Justin.
J'ai fait la dernière question.
Oui.
Monsieur le docteur, je voulais un peu avoir plus de précision. Et ça m'arrive encore... Comme je suis étudiant, il y a une certaine heure que je me suis décidé d'étudier. Les yeux se ferment de soi, le cerveau est tellement saturé. Et tout ça, je suis allé à l'hôpital mettre à mettre fois. On ne parvient pas toujours à me donner une solution.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur?
Est-ce que vous pouvez repréciser votre question? Quel est votre souci?
Oui, j'ai dit ça. En tant que je suis étudiant, il m'arrive d'autres fois là, quand je me décide un peu d'étudier, parce que j'ai des heures à étudier. Quand j'ouvre ces manettes de cours pour étudier, je vois les yeux qui se ferment du soir. Ça ne me permet pas que je puisse lire. Et là, c'est habituellement, chaque jour quand je vais essayer de lire, que ce soit un journal ou quoi, ça se ferme. Je suis allé à l'hôpital, on m'a encore consulté et pas des maladies.
D'accord.
Alors, le cerveau n'a pas la capacité de maîtriser encore quelque chose ou de retenir quelque chose.
Oui, Justin. Donc, connais-toi toi-même. C'est le conseil que je vais te donner. Si les yeux se ferment la nuit, c'est un phénomène tout à fait normal. La nuit, il faut dormir. Il te faudra trouver des heures où tu seras plus en forme pour pouvoir étudier. Il est très important que tu sois à l'écoute de ton corps. D'ailleurs, il ne sert à rien de te mettre à étudier, à mémoriser, alors que ton cerveau est fatigué. Il faut lui donner suffisamment de repos, suffisamment d'énergie, de glucose pour pouvoir être efficace. Et donc, il faut que tu te connaisses toi-même, que tu t'aménages des moments de pause, des moments de repos pour pouvoir être plus efficace dans tes lectures.
Bien, merci d'avoir appelé Justin. Nestor Mulouaï, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, alors je vous écoute. Bonjour Jody, bonjour à l'équité.
Nous parlons des signes annonciateurs de l'AVC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela?
Bon, j'ai suivi certains préalables que le docteur a montré sur le plateau par rapport au candidat de l'AVC. Il a parlé aussi du diabète. Alors ma question était de savoir, qu'est-ce qu'un diabétique peut faire pour éviter l'AVC? Juste ça.
D'accord, merci. Alexis Kabeya de Lubumbashi, bonjour. Alexis Kabeya, bonjour. Il n'est plus là. Docteur, vous avez la parole.
Alors, ce que le diabétique doit faire pour éviter l'AVC, c'est normaliser, en fait, ses chiffres glycémiques. Et donc, cela implique nécessairement une relation assez intime avec son médecin, parce qu'il s'agit d'un suivi qui sera régulier, qui sera continu. Il y a plusieurs types de diabète, mais généralement, celui qui est le plus prépondérant, c'est le diabète de type 2, dans lequel on recommande aux patients d'avoir ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques, d'éviter tout ce qui est sucre à index glycémique élevé, de manger sainement, beaucoup plus de fibres. Donc il faudra que le patient puisse respecter les conseils de son médecin. Prendre les médicaments qui lui sont prescrits, ça peut être les antidiabétiques ou oraux, tout comme ça peut être l'insuline. Et il faudra qu'il ait le suivi régulier de son taux de sucre et d'un marqueur très important qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Tous ces éléments-là, le médecin praticien les connaît et il peut facilement demander ses examens et faire le suivi. Donc il est important de maintenir le taux de sucre dans les valeurs normales pour éviter l'AVC.
Bien, un auditeur nous a écrit, il s'appelle Docteur Grace Mukongo. Il dit pour la première au sujet de l'AVC, les signes sont généralement des maux de tête, des vertiges, vomissements. Et à l'hôpital, on verra la tension artérielle s'élever. Mais il faut noter aussi que les AVC peuvent survenir sans signes annonciateurs, plus pour l'AVC ischémique. Docteur Georges.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de symptomatologie en fonction de l'importance des dégâts, en fonction également de la localisation de l'AVC. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne, c'est-à-dire que la pression au niveau du cerveau augmente parce qu'il y a un œdème qui est en train de s'installer, effectivement, on peut avoir des nausées, on peut avoir des vomissements. Donc, tout dépend de la localisation, de la sévérité de l'atteinte.
Et il a parlé de certains AVC ischémiques qui arrivent sans s'annoncer.
Possible aussi. On peut avoir des AVC et sans déficit neurologique clairement établi. C'est possible également. Voilà pourquoi il est important de faire le scanner et l'IRM.
Voilà, on va terminer avec la question des patients Paul Ngoy. Il dit, certains papas avancés en âge courent avec des jeunes filles moins âgées que leurs filles. Une fois qu'ils apprennent que la jeune fille vit avec une autre personne, ils se donnent eux-mêmes les soucis et chagrins qui vont les amener à la mort. Et dans le cas pareil, pourquoi les spécialistes ou psychologues ne parviennent pas à dénicher le vrai souci plutôt que s'attaquer aux causes qui minent beaucoup, à laisser la vie alors qu'ils étaient bien traités et ils pouvaient résister à la mort. Bon, il veut tout simplement nous parler de ses papas qui courent avec les jeunes filles et quand il apprend que la jeune fille a un autre copain, il s'est fait des soucis, des chagrins qui peuvent l'amener à développer un AVC.
Ce que je pourrais dire, le commentaire que je pourrais faire, c'est qu'il faut à partir d'un certain âge avoir des attitudes saines de vie, éviter tout ce qui est excès pour justement ne pas avoir une mort prématurée. Et donc c'est manger convenablement, de manière équilibrée, de manière saine, faire une activité sportive d'endurance, éviter tous les stress excessifs et courir courir les jupons des petites filles à cet âge-là peut être un facteur de risque cardiovasculaire, donc il faudrait éviter tout cela.
Bien, merci docteur Georges Ngoy. Je rappelle que vous êtes spécialiste en cardiologie et en médecine interne. Merci et bonne journée.
Merci à vous.